Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. La presse. Au programme, peut-on dégâter ses enfants? L'ex-mannequin qui se bat pour ses petits rois et celle qui offre un toit aux jeunes de la DPJ devenus sans-abri. Bonne écoute.
Peut-on dégâter ses enfants? Un texte d'opinion de Maude Goyer, paru le 3 janvier 2023 dans la presse. Votre enfant a déballé ses cadeaux frénétiquement, le papier d'emballage revolant dans les airs. Les nouveaux jouets s'entassent maintenant dans un coin du salon. Bien que vous soyez reconnaissant de la générosité de la parenté, est-ce un beau souvenir de Noël ou la démonstration d'un enfant trop gâté? Mère de jumelles de 4 ans et d'un bébé de 1 an, Geneviève Gay a déjà vécu cette scène d'emportement désorganisé où les enfants deviennent surexcités, voire fous, devant la montagne de cadeaux à ouvrir. C'était la fête des jumelles, raconte cette résidente de la Mauricie, et elle déballait à la vitesse de l'éclair sans s'intéresser aux jouets et sans remercier la personne qui leur donnait le cadeau. Je n'en revenais pas. Est-ce que c'était ma faute? Est-ce que j'avais élevé des monstres? Une fois l'épisode passé, Madame Guy s'est demandé si elle pouvait revenir en arrière. Peut-on dégâter ses enfants? Tout ce travail, il n'est jamais trop tard, lance la psycho-éducatrice Stéphanie Deslauriers, mère d'une fillette de 4 ans. Selon elle, un peu d'introspection est nécessaire avant d'ouvrir la discussion. On est le modèle de nos enfants. Quel est notre rapport au matériel et à la consommation? Il faut être en mesure d'avoir un regard franc et honnête envers soi-même. La psychologue Nathalie Parent croit elle aussi que notre propre attitude va beaucoup orienter les enfants. Si les parents sont dans l'équilibre lorsqu'ils font des achats, s'ils sont dans la gratitude, il y a de fortes chances que les enfants le seront aussi. En tant que parent, si on ne dit jamais « merci », si on ne reconnaît pas ce que les autres font pour nous, les enfants risquent de retenir cela, indique-t-elle. Mais d'abord, comment savoir si notre enfant est gâté? S'il passe d'un bien à l'autre sans grand intérêt, s'il ne remercie pas les personnes, s'il tient pour acquis ce qu'il reçoit, bref, s'il n'a pas conscience de ses privilèges, c'est un signe, avancent les deux expertes. Madame Parent nous invite aussi à observer nos émotions face aux agissements de nos enfants. Lorsqu'on est irrité par son comportement, qu'on a l'impression, par exemple, de tout faire, d'être au service de tous les membres de la famille, il est temps d'en parler et de distribuer les tâches. Yann Costa, Montréalais, père de 2 adolescentes, n'aime pas le mot « gâté », car il croit que cela décrit un état permanent, comme si c'était un fait immuable. « Je ne vois pas ça comme un trait de caractère, mais comme un comportement », confie cet éducateur. Chez lui, tout le monde a ses responsabilités et ses tâches à faire. Et il a toujours résisté à donner de l'argent pour récompenser les services rendus à la maison. Ça n'a aucun sens pour moi. On vit tous dans la maison. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Dans ce même état d'esprit, il se rend chaque année avec sa famille dans un centre de dons pendant la période des fêtes. On est à même de constater qu'on est chanceux et que certaines familles ont des besoins non comblés, illustre M. Costa. Par des petits gestes comme celui-là, les parents peuvent aider leurs enfants à développer des valeurs comme la solidarité, l'empathie, la compassion, l'ouverture, ce qui aide à mettre les choses en perspective. Mais attention, prévient Stéphanie Deslauriers. Il est normal chez les enfants de demander des jeux et des jouets. C'est attrayant pour eux. L'idée n'est pas d'interdire, mais peut-être de leur apprendre à tolérer un délai, suggère-t-elle. Si on attend à demain, ou à après-demain, est-ce qu'il va en reparler? Établir un budget, le maintenir et fixer des limites est aussi une bonne façon de ne pas trop gâter son enfant et de lui montrer la valeur de l'argent. Dès l'âge de 7 ou 8 ans, un enfant a la maturité de parler de consommation, d'achat, d'argent et de surabondance, croit Nathalie Parent. Au lieu de sermonner, j'aime bien poser des questions et voir avec l'enfant comment on peut régler la problématique, dit-elle. Comment il voit cela? Qu'est-ce qu'on peut changer ensemble? La psychoéducatrice Stéphanie Deslauriers aime offrir des solutions de rechange aux biens matériels, offerts en cadeau. Des sorties, des activités, des repas spéciaux, des coupons pour accéder à des surprises ou des privilèges, par exemple. C'est une façon de se créer des souvenirs et de mettre de l'avant le fait que le plus important, au fond, c'est le temps passé ensemble, conclut-elle. C'était « Peut-on dégâter ses enfants ?» un texte d'opinion de Maud Goyer, paru le 3 janvier 2023 dans la presse. L'ex-mannequin qui se bat pour ses petits rois. Un texte d'opinion de Caroline Touzin, paru le 27 décembre 2022 dans la presse. Et toi, Vania, qu'est-ce qu'il fait, ton fils, dans la vie? La question est anodine. Elle surgit naturellement au détour d'une conversation informelle entre des parents de jeunes adultes qui se connaissent peu ou pas. C'est l'occasion pour l'un de vanter son aîné en stage dans un grand cabinet d'avocats, ou pour un autre de parler du premier voyage solo de sa cadette en Europe. « Le mien travaille à l'Auto-Québec », répond Vania Aguiar, mère d'Henri-Louis, 27 ans. Une réponse qui semble banale si on ne connaît pas le parcours de cette ancienne mannequin internationale engagée à améliorer le sort d'enfants vivant avec une déficience intellectuelle de modérée à sévère, avec ou sans trouble du spectre de l'autisme. Henri-Louis est l'enfant le plus imparfaitement parfait que je pouvais avoir, résume celle qui a fait carrière dans un univers où l'on n'exigeait d'elle rien de moins que la perfection. Vivant avec une déficience intellectuelle, son fils ne fait rien seul. Il a besoin d'aide pour se laver, pour aller à la toilette, pour s'habiller. En plein hiver, il peut sortir en sandales, sans manteau, pour que tout le monde puisse bien voir le logo du Canadien sur son chandail, raconte-t-elle avec affection. Mais grâce au travail acharné de sa mère, Henri-Louis réalise désormais un stage chez l'Auto-Québec qui se transformera bientôt en emploi à temps plein. Vous ne pouvez pas vous imaginer la fierté que cela représente lorsqu'on a un enfant comme le mien, dit celle qui est présidente de la Fondation Les Petits Rois. Madame Aguiar n'oubliera jamais cette journée de 2001 où elle visite l'école publique Saint-Pierre-Apôtre à Montréal. Elle rencontre un personnel dévoué, bienveillant, mais l'établissement manque de tout. Après la visite, en rentrant dans mon auto, je me suis mise à pleurer, raconte-t-elle. Je me répétais, ce n'est pas possible. Les trois quarts des familles des élèves sont sous le seuil de la pauvreté, lui révèle la directrice de l'établissement. La maman d'Henri-Louis prend l'initiative de visiter chacune des familles dont l'enfant fréquente l'école pour cerner leurs besoins. Plusieurs sont monoparentales. Elles n'ont pas les moyens d'avoir recours au privé pour combler les lacunes du public. L'idée de créer la Fondation Les Petits Rois naît. 21 ans plus tard, elle aide plus de 500 enfants et leurs familles dans la région de Montréal. Henri-Louis grandit. En 2009, son cheminement se poursuit à l'école Irénée-Lucier, située non loin du stade olympique. Là aussi, la visite de l'établissement public mal adapté aux besoins des ados handicapés tire des larmes à Madame Aguiar. Il y a ces escaliers difficiles à gravir pour des élèves qui voient mal ou qui ont de grands enjeux de motricité. Il n'y a pas d'ascenseur. Les classes sont minuscules et ces cadres de portes trop petits qui deviennent gênants lorsque le personnel doit maîtriser un ado de 6 pieds, 200 livres en crise. L'ancienne mannequin se relève les manches et décide de porter un projet ambitieux. Convaincre les autorités de la nécessité d'une école flambant neuve, aménagée pour cette clientèle à besoins particuliers. Coût du projet estimé à l'époque, 35 millions. Coût final, 77 millions. Vania Aguiar devient présidente du conseil d'établissement, poste qu'elle occupera durant 9 ans. Autant d'années passées à sensibiliser les élus et les ministres de l'Éducation qui se succéderont. Moi, quand on me ferme la porte au nez, et c'est arrivé, je reviens et je me remets à cogner jusqu'à ce qu'on me dise « oui », lâche-t-elle, sans perdre son sourire. La nouvelle école Irénée Lucier ouvrira finalement ses portes à l'automne 2023. Trop tard pour Henri-Louis, mais son engagement dépasse son fils. La cause me colle à la peau, ça me réveille la nuit. Au fil des ans, elle a connu beaucoup de familles, moins chanceuses que la sienne. L'arrivée d'un enfant handicapé a soudé mon couple, alors que ça fait plus souvent l'inverse, décrit-elle. Mon mari, ma fille, tout le monde est là pour Henri-Louis. Vous écoutez l'ex-mannequin qui se bat pour ses petits rois. Un texte d'opinion de Caroline Touzin, paru le 27 décembre 2022 dans la presse. À 21 ans, les jeunes avec un handicap intellectuel sévère tombent dans un trou noir. Ils sont trop vieux pour fréquenter une école spécialisée et leur cas est jugé trop lourd pour qu'ils puissent intégrer un centre de jour ou un plateau de travail pour handicapés. C'était avant que Mme Aguiar s'en mêle. Sa fondation a convaincu des entreprises comme Le Château, le Cirque du Soleil, L'Oréal Canada et l'Auto-Québec d'ouvrir des plateaux de travail. À la naissance du projet, 16 jeunes, dont Henri-Louis, ont participé à un stage de 5 ans à l'Auto-Québec. Une éducatrice spécialisée du réseau de la santé les a encadrés sur place. Les cas les plus lourds ont aussi eu droit à un accompagnateur fourni, lui, par le centre de service scolaire. Le trou noir est devenu un puits de lumière. En juin 2023, la cohorte d'Henri-Louis va obtenir son diplôme après 5 ans passés en stage. L'expérience est si concluante que les jeunes travailleront à temps plein pour la société d'État. La plus grande préoccupation de Mme Aguiar, l'avenir de son fils lorsque son mari et elle ne seront plus là. Je vais voir mon médecin chaque année et je lui dis « Je ne peux pas mourir tout de suite. Organisez-vous pour que je vive longtemps. » Madame Aguiar a visité des ressources intermédiaires. « J'imaginais Henri-Louis se bercer toute la journée devant la télé, » dit-elle en mimant un bercement. « Je me suis juré que jamais il ne vivrait là. » Et c'est là qu'elle a plongé dans un nouveau projet colossal. Financer la construction d'une « maison intelligente » où 8 jeunes pourraient cohabiter sans supervision parentale. C'était en 2017. Et devinez quoi? Elle est parvenue à trouver le terrain et surtout l'argent nécessaire. Mais la pandémie lui a joué un mauvais tour et le projet est en péril. Nous la rencontrons sur le chantier situé au cœur du quartier Côte des Neiges. Par une journée glaciale de décembre, des ouvriers s'affairent à construire la fondation. Le projet initial était estimé à environ 3 millions. Le fédéral a accordé 2,25 millions et la fondation Les Petits Rois le reste. Or, comme les coûts de construction ont monté en flèche durant la pandémie, il leur manque désormais 1,8 million. Madame Aguiar a tenté de convaincre le fédéral d'allonger davantage d'argent. Sans succès. Le fédéral lui a conseillé de se tourner vers le provincial. Au provincial, on lui a suggéré de se tourner vers le municipal. Aucun élu n'a voulu nous aider. Tous ont pelleté le problème dans la cour de l'autre, ajoute-t-elle, découragée. La Fondation a tout de même trouvé une oreille attentive chez le vice-président du comité exécutif à la Ville de Montréal, Benoît Doré. La Ville a autorisé le début de la construction, mais a exigé que son budget soit bouclé d'ici la fin du mois de janvier, explique Mme Aguiar. Mme Aguiar a récemment écrit au premier ministre François Legault pour l'implorer d'agir en bon père de famille pour sauver le projet. Il a refusé de la rencontrer, a-t-elle appris, juste avant Noël 2022. Peut-être que la cause de nos jeunes vulnérables n'est pas si importante à ses yeux. Je suis très déçu. Debout dans la roulotte de chantier, tirée à quatre épingles, Madame Aguiar nous montre les plans de la maison. Les jeunes vont être bien ici, lâche-t-elle. Un superviseur y vivra en permanence. Des professionnels seront embauchés pour que les jeunes poursuivent leur apprentissage et la technologie pourra les appuyer dans leur quête d'autonomie. De grandes entreprises, des architectes chevronnés, des chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières, le CIUS local et l'Institut de gériatrie de Montréal vont collaborer au projet. Mais qu'allez-vous faire si vous ne bouclez pas votre budget d'ici au 31 janvier 2023? On va trouver une solution, répond-elle du ton assuré d'une mère qui a surmonté tant de fois l'adversité. C'était l'ex-mannequin qui se bat pour ses petits rois, un texte d'opinion de Caroline Touzin, paru le 27 décembre 2022 dans la presse. Celle qui offre un toit aux jeunes de la DPJ devenue sans-abri. Un texte d'opinion de Caroline Touzin, paru le 28 décembre 2022 dans la presse. 10 ans. Dire qu'Elena Sauvageau est patiente et déterminée relève de l'euphémisme. Cela a pris une décennie pour que son projet de 30 logements supervisés destinés à de jeunes sans-abri, pour la plupart des enfants de la DPJ devenus adultes, se concrétise à Laval. « Ici, c'est notre pièce la plus importante », souligne la femme de 44 ans en nous faisant visiter l'immeuble qui a accueilli ses premiers locataires l'hiver dernier. Nous sommes dans le salon L'Accalmie, situé au rez-de-chaussée. L'endroit est paisible et chaleureux. Un sapin de Noël trône au fond de la pièce. Un lit pour bébé est installé dans un coin, car 3 logements sont réservés à de très jeunes mères et à leurs bébés. Une station artistique équipée de toiles et de peintures est aménagée près de la fenêtre. Les jeunes locataires viennent y chercher de l'aide à toute heure du jour ou de la nuit. Un intervenant est présent au salon L'Accalmie 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. C'est ce qui nous distingue des autres projets d'appartements supervisés. C'est la richesse du projet, dit Elena Sauvageau, directrice générale de l'Auberge du Cœur, L'Envolée et des habitations du même nom. Car des crises d'anxiété, ces jeunes qui ont connu la rue en font pratiquement toutes les nuits. Nos jeunes sont victimes de leur histoire, de leur famille, résume Madame Sauvageau. Ils ont été victimes d'abus, négligés ou carrément abandonnés durant l'enfance. Les nuits sont plus occupées que les journées et les journées sont très occupées, lâche-t-elle. Certains locataires ont un trouble du spectre de l'autisme, d'autres d'importants troubles psychiatriques. Plusieurs ont des idées suicidaires. C'est lourd. explique Madame Sauvageau, au point où certains locataires font une intégration progressive à la manière de l'intégration d'un poupon à la garderie. 1 heure la première journée, 2 heures le lendemain, etc. Pour la directrice générale de l'organisme communautaire, il était hors de question de leur construire un bel immeuble si, au bout du compte, ces jeunes adultes étaient laissés seuls avec leur mal-être entre les quatre murs de leur logement. Les jeunes ont besoin d'un toit, oui, mais ils ont autant besoin d'un suivi intensif, sinon cela aurait été un échec. L'idée de ce projet a germé en 2012 quand Elena Sauvageau travaillait à l'auberge du Cœur L'Envolée, située dans le quartier Sainte-Rose, qui compte 16 places pour des jeunes de 16 à 23 ans. Selon les règles des auberges du Cœur, les jeunes peuvent y rester 1 an. Or, à Laval, c'était déjà le cas il y a 10 ans et la crise s'est exacerbée depuis. Il y a un manque criant de logements abordables. Et les jeunes qui sortent des centres jeunesse n'ont pas de famille ni de contact pour les aider. Encore moins de dossiers de crédit. Ainsi, après leur année à l'auberge du Cœur, ils n'arrivaient pas à se reloger. À l'Académie, les jeunes peuvent rester 3 ans. Ils sont admis jusqu'à l'âge de 30 ans. Nos jeunes se méfient beaucoup des adultes parce qu'ils souffrent presque tous d'un trouble de l'attachement, explique Madame Sauvageau. C'est long, créer un lien avec eux. En les gardant 3 ans avec nous, cela nous permet de les stabiliser. Les locataires doivent avoir un projet de vie, que ce soit de retourner aux études ou de trouver un emploi. La participation à des ateliers de réinsertion sociale et à des soupers communautaires est obligatoire. C'est de ça qu'ils souffrent le plus, l'isolement. L'équipe d'intervenants leur offre toutes sortes d'occasions d'être ensemble pour créer des liens, nous dit Elena Sauvageau. Vous écoutez celle qui offre un toit aux jeunes de la DPJ devenus sans-abri. Un texte d'opinion de Caroline Touzin, paru le 28 décembre 2022 dans la presse. Une cuisine commerciale a été aménagée dans l'édifice pour leur apprendre à bien se nourrir. Car ils ont beau être adultes, personne ne leur a montré comment fonctionnait une laveuse, un four, etc., ni comment faire l'épicerie. On doit tout leur montrer, indique Madame Sauvageau. Un intervenant a dû accompagner chez le coiffeur un jeune qui était anxieux à l'idée d'y aller puisque c'était sa première fois. Les jeunes paient 25 % du coût du loyer. Cela leur permet de mettre de l'argent de côté. On les force à épargner le quart de leurs revenus. Sinon, à leur départ, ils vont retourner à la rue faute d'avoir l'argent nécessaire pour payer le vrai coût d'un loyer, souligne Madame Sauvageau. Le jour de notre passage, nous croisons une jeune locataire au rez-de-chaussée. Notre présence la rend nerveuse. Elle nous observe avec méfiance, détourne le regard. La jeune femme a atterri dans la rue au tout début de l'adolescence et elle y est restée plusieurs années. À son arrivée ici, il y a 7 mois, elle avait une peur bleue des sous-sols et, comme tous les autres, de rester seule. Madame Sauvageau ne peut pas donner de précision sur son cas pour ne pas briser le lien de confiance qui les unit. Disons qu'elle a vécu plusieurs grands traumatismes. 7 mois plus tard, la jeune locataire a une plus grande confiance en elle. Elle a trouvé un travail et fréquente le cégep. Elle arrive même à descendre au sous-sol de l'immeuble. Un jour, Madame Sauvageau lui a offert du matériel de peinture. La jeune femme s'est mise à peindre compulsivement pour calmer ses angoisses. La directrice de l'organisme a mis l'une de ses œuvres en vente dans un encan caritatif. « Ta toile est rendue à 600 $, la félicite-t-elle au moment de notre passage. La jeune femme devait assister à l'événement bénéfice quelques jours plus tard, sauf qu'elle n'avait pas de robe. Madame Sauvageau lui en a offert une. « Pourquoi fais-tu ça pour moi ?» lui a demandé la jeune femme en recevant sa robe neuve. probablement la première de sa vie. « Parce que tu en vaux la peine, » lui a répondu Madame Sauvageau. Cela aussi, la jeune femme semblait l'entendre pour la première fois. Madame Sauvageau se destinait à travailler en violence conjugale quand elle a fait un stage d'éducatrice spécialisée, il y a 23 ans, à l'Auberge du Cœur. Elle est tombée en amour avec la clientèle et n'est jamais repartie. Enfin, sauf pour une année, pendant laquelle elle a travaillé dans un foyer de groupe d'un centre jeunesse, où elle a été rapidement découragée par la lourdeur bureaucratique. À l'envolée, tout est possible, tu n'es pas régi par un système, poursuit la gestionnaire. Les intervenants ont une bonne idée, on la réalise, on est souple. La quadragénaire a un nouveau défi de taille. En plus de diriger l'envolée, elle préside le réseau d'organismes et d'intervenants en itinérance de Laval. À l'heure actuelle, elle travaille à sauver le refuge d'urgence de Laval, ouvert durant la pandémie et installé dans un ancien couvent, propriété de la ville. 25 sans-abri y dorment chaque nuit et d'autres sont refoulés faute de place. On entend dire que la ville veut en faire un centre culturel, indique-t-elle. On veut nous relocaliser le plus tôt possible, mais la question c'est « relocaliser où ?» Et si on construit un nouveau refuge, ça va prendre encore 10 ans. Pendant ce temps-là, on fait quoi avec les gens ? On les envoie à Montréal, à l'urgence de l'hôpital ? C'était celle qui offre un toit aux jeunes de la DPJ devenus sans-abri. Un texte d'opinion de Caroline Touzin, paru le 28 décembre 2022 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.